Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Chers auditeurs, bonjour. C'est votre émission préférée mensuelle de Radio Calade, Poker Menteur. À l'antenne, c'est moi-même, Mézig, Patrick Trouillou, parce que, comme d'habitude, notre ami Franck est par Mons et par Vaud. Aux dernières nouvelles, on m'a dit qu'il est en partance pour le Tibet, où il va faire une retraite spirituelle de 7 ans pour devenir un illuminé, un bodhisattva. Mais je me demande si ce n'est pas une fake news. À suivre. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Figurez-vous qu'on fait le plein de bonnes blagues au début, parce qu'on va parler d'un sujet qui n'est pas spécialement super drôle, mais avec un invité qui connaît bien son sujet. Nous allons parler de la Shoah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'était le 27 janvier dernier, c'était les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et quelque part, dans notre petite tête à tous les deux, moi-même et l'invité que je vais vous présenter dans quelques instants, eh bien, on a eu quelques discussions et on s'est dit qu'il y avait matière à dire des choses, à revenir en arrière sur tout ça. Je vais déjà vous demander je vais déjà introduire notre nouvel invité, qui s'appelle Jean-François, qui est historien. Jean-François, bonjour.
Bonjour, donc je suis Jean-François Reynaud, historien, professeur d'histoire au lycée Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône.
Et spécialisé dans la question de la Shoah, quand même.
Spécialisé un petit peu dans la question de la Shoah.
D'accord, d'où nos diverses discussions depuis longtemps déjà. Quelque part, l'idée de cette émission, dans ma tête, c'était de mettre en rapport la question de la Shoah avec la question du négationnisme. C'est la première proposition que je t'ai faite et qui a motivé notre réunion. Mais très vite, on s'est aperçu que ça a été trop pour une seule émission. Donc on va faire ça en deux fois. Aujourd'hui, on va parler de la Shoah et de ce qui l'a évidemment motivé, c'est-à-dire l'antisémitisme. Ce sera donc le thème d'aujourd'hui. Et le mois prochain, on s'intéressera à la Shoah et à son négationnisme. Alors Jean-François, je vais te laisser la parole. On va faire, comme c'est un peu la spécialité de notre émission, un petit retour historique pour mettre en contexte tout ça. Et donc, tu vas nous parler un petit peu de tout ce parcours historique de ce terrible antisémitisme.
Très bien.
On t'écoute.
Je voulais d'abord faire un premier point de vocabulaire sur l'antisémitisme, qui est un mot inventé en 1879 par un journaliste allemand, Wilhelm Marr, pour désigner la haine des Juifs.
C'est donc un terme récent. Avant, on utilisait quel terme ? Anti-judaïsme ?
Anti-judaïsme, ouais. Parce que c'était c'était contre la religion des Juifs, simplement.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, revenir aussi sur ce terme antisémitisme pour dire ce que sont les sémites, finalement, d'un point de vue linguistique. Les sémites sont des peuples de Mésopotamie et de Palestine, mais plusieurs peuples, les Assyriens, les Babyloniens, les Juifs, les Arabes à l'origine.
D'accord, ouais, c'est pas uniquement les Juifs.
Donc ce n'est pas uniquement les Juifs. Donc l'antisémitisme est un mot faux, finalement.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je comprends.
Donc on va revenir sur l'histoire dans l'Antiquité assez récente de notre ère du monothéisme juif qui vivait au milieu des populations polythéistes sans problème majeur au début de notre ère.
Tout à fait.
La Judée devient une province romaine en l'an 6. Les Romains toléraient plutôt bien la religion juive et ne l'attaquaient pas. En revanche, ils n'acceptaient pas les troubles politiques, d'où la destruction du temple de Jérusalem en 70 après 4 ans de rébellion des Juifs.
Mais ce qui les préoccupait, c'était la tranquillité politique,
exactement,
les Romains.
Et la catastrophe de la chute du temple fit perdre le centre religieux aux Juifs et ça aboutit à une diaspora et finalement à 3 foyers principaux du peuple juif.
D'accord, c'est le point de départ de cette fameuse diaspora.
Tout à fait. Le premier foyer, c'est la Galilée, où là, on retrouve un peu des religieux essentiellement qui abandonnent les idées politiques, les revendications politiques pour se centrer sur le religieux. Ensuite, il y a la Mésopotamie, où de nombreux juifs étaient restés depuis les grandes déportations du 6e siècle.
Ouais.
Et enfin, donc, cette diaspora qui se situe en Égypte, en Asie mineure, en Grèce, à Rome, mais aussi sur tout le pourtour méditerranéen et jusqu'en Rhénanie.
D'accord, donc ça, quelque part, ça progresse dans le bassin méditerranéen, autour du bassin méditerranéen.
Exactement. Et on va le voir avec le développement de l'Empire romain et du christianisme. Et donc, cette deuxième partie s'intitule l'antijudaïsme chrétien.
Ouais.
Donc, cet antijudaïsme chrétien est fondé sur des divergences religieuses et théologiques. Pourquoi ? Parce que les Juifs sont accusés d'être le peuple déicide.
Ah, bien sûr.
Et oui.
Et c'est ce qu'on va leur coller sur le dos pendant des centaines d'années.
Exactement. Et en déchargeant l'autorité romaine de toute responsabilité dans.
Comme si c'était que les Juifs, les Romains n'étaient pas là en toile de fond. C'est quand même eux qui ont arrêté Jésus et qui l'ont mis sur la croix.
Exactement. Et du coup, les premiers pères de l'Église, comme saint Augustin au 5e siècle, donnent la figure emblématique du judaïsme, celle de Judas, donc du traître. Et bon, dans le même temps, c'était quand même aux Juifs qu'avaient été révélés les livres saints qui racontaient l'histoire du salut.
Oui, donc c'est un peu compliqué pour les chrétiens, parce qu'on ne peut pas trop tout leur mettre sur le dos. C'est quand même par eux qu'est venue la chrétienté.
Tout à fait. Malgré tout, saint Augustin va quand même développer une théorie selon laquelle il faudrait contraindre les Juifs à la soumission pour leur faire revivre leur culpabilité.
Ah d'accord, okay. Ouais.
Et donc ils furent un peu marginalisés dans l'Empire romain. Avec la chute de l'Empire romain, des moments de paix arrivent, d'autant plus qu'avec le Moyen-Âge, les sociétés sont de plus en plus morcelées, repliées sur elles-mêmes.
Oui, tout à fait.
Et les Juifs, qui sont dispersés dans l'ensemble du bassin méditerranéen, se consacrent au commerce. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour les chrétiens, pour eux, il était interdit de posséder
des terres. C'est important. Première étape, on leur interdit de posséder des terres et donc d'exercer une activité agricole. Donc déjà, ça les contraint à se recentrer sur les autres métiers.
Tout à fait.
Dont le commerce.
Dans le commerce, et ils sont protégés par les souverains à ce moment-là, il n'y a pas de souci particulier.
D'accord.
Il y a un premier tournant qui intervient lors de la première croisade, entre 1096 et 1099, lorsque les croisés veulent aller en Terre Sainte pour libérer Jérusalem de l'occupation musulmane. Sur leur route, ils croisent parfois des juifs, surtout dans le bassin rhénan. Et là, ces juifs sont victimes de persécutions, de massacres, de pogroms, puisqu'ils sont assimilés à des infidèles.
Et puis là, on est un petit peu en mode intégriste, les croisés, quand même.
Hein. Exactement.
C'est, tous les infidèles, on les passe par le fil de l'épée.
Tout à fait. Ensuite, au XIIe siècle, l'Europe connaît une période de croissance économique et démographique.
Ouais.
Les Juifs, qui sont une population essentiellement urbaine, se développent dans l'artisanat et le commerce. Mais les corporations d'artisans européens vont s'approprier ces métiers et les exclure des métiers de l'artisan.
Et donc ça, c'est une deuxième étape importante. Après qu'ils aient été interdits d'activité agricole, ils vont être interdits d'activité artisanale.
Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste la fonction financière qui est interdite aux chrétiens.
Et voilà, donc il ne reste plus que la fonction financière.
Qui va parfois entraîner la catégorisation des Juifs en tant que
émissaire. Bien sûr, c'est ce qu'on verra après, tout à fait.
L'Église accompagne ce processus et se radicalise également avec le Concile de Latran IV en 1215, qui impose aux Juifs des signes distinctifs pour pouvoir les repérer.
D'accord. Tu as dit que c'est en quelle année, ça ?
1215.
D'accord, au XIIIe siècle.
Oui. Au XIIIe et XIVe siècle, qui sont moins prospères, ça va être une période très difficile pour le peuple juif, parce que des fausses accusations vont circuler, notamment celle de kidnapper des enfants à des fins rituelles, disant qu'ils prennent le sang des enfants pour faire...
Les fameuses rumeurs, en fait, déjà à l'époque.
Les fausses rumeurs, faire du pain, d'empoisonner l'eau des puits, ce genre de... En 1348, par exemple, pendant la Grande Peste, on les accuse d'avoir propagé l'épidémie de la peste. Voilà. Et même la ville de Strasbourg va massacrer tous ces juifs, par exemple.
C'est vraiment le mécanisme de bouc émissaire permanent à leur
rencontre,
en fait.
Tout à fait. On a aussi un mouvement de va-et-vient d'expulsion et de réintégration dans des royaumes, comme le royaume d'Angleterre, le royaume de France.
Ouais.
L'Espagne va être un peu plus radicale là-dedans. Elle va exclure tous ces juifs en 1492, en même temps que les musulmans, avec la Reconquête.
D'accord. On fout dehors les musulmans, mais aussi les juifs avec.
Exactement. Et la couronne d'Espagne va mettre en place les lois de pureté de sang.
Ouais.
Alors, c'est loin. Ces lois disent que pour exercer une charge publique, il faut prouver qu'on est sur le terrain d'Espagne et non juif, non musulman, depuis au moins 5 générations.
Là, c'est un peu le précurseur d'un antisémitisme racial dont on va reparler un petit peu plus tard.
Exactement, tout à fait. On a donc une géographie du judaïsme en Europe qui va se dessiner. Et on voit les juifs ashkénazes qui se situent en Europe centrale et de l'Est, alors
d'accord.
que les séfarades, eux, vont plutôt occuper le pourtour méditerranéen, l'Afrique du Nord, l'Italie, puis même un petit peu les Pays-Bas.
Donc on va dire, les juifs du Sud, c'est les séfarades, les juifs de l'Est, issus de l'Est, provenant de l'Est, c'est les ashkénazes.
Exactement, tout à fait.
D'accord.
À Venise, on va avoir un premier ghetto qui va enfermer les juifs, c'est en 1516.
Ah oui.
Voilà. Ensuite, on a des pogroms assez réguliers en Europe de l'Est, notamment en Ukraine et en Pologne.
Très longtemps, historiquement, l'antisémitisme va être très très fort, beaucoup plus fort en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest, par exemple.
Exactement.
Ça s'explique par le nombre de juifs présents.
Le nombre de juifs est beaucoup plus important en Europe de l'Est et du coup plus visible. Et aussi plus favorisé. favorisé par les rois de Pologne notamment, ont favorisé le peuple juif qui apportait de la démographie, en fait, tout simplement,
et du
pouvoir pour eux.
Okay.
À l'époque moderne, l'esprit de tolérance se développe et les juifs continuent d'être une population à part, mais ils ne sont plus victimes de violence. Et ce mouvement va aller jusqu'à la Révolution française et l'émancipation des juifs de France le 27 septembre 1791.
Ça, c'est une date importante. Donc la Révolution française est une grande date pour vraiment replacer les juifs dans une position d'égalité citoyenne, on va dire.
Exactement. Et ce mouvement va se répandre à travers l'Europe, surtout entre 1841 et 1870. Les juifs deviennent donc des citoyens à part entière du pays où ils se trouvent.
Sous l'influence de la Révolution française.
Hein. Exactement.
Ouais.
Et on pense qu'il n'y a plus de problème juif, donc les juifs sont des personnes intégrées comme les autres. Mmh. Et on pense donc que l'émancipation, c'est la meilleure solution pour le peuple juif.
D'accord. D'accord.
Et donc maintenant, on va arriver à l'antisémitisme du 19e siècle,
ouais.
Qui est d'abord économique, car l'émancipation permet à des personnalités juives de s'insérer dans le processus d'industrialisation et de capitalisme naissant.
Ouais, ils s'insèrent dans cette société industrielle qui ne va pas tarder à naître.
Tout à fait. Certains vont en profiter pour s'enrichir, une minorité, comme par exemple James Rothschild. Mais ces succès d'une petite minorité vont attirer l'essor d'un nouvel antisémitisme, celui des anticapitalistes. Pardon.
Tout à fait. Alors là, un antisémitisme qui vient de gauche, même si le terme gauche n'existait pas à l'époque, et qui assimile les juifs à l'argent, d'accord, au pouvoir de l'argent, qui est en train de monter en puissance dans cette société bourgeoise qui est en train d'apparaître.
Tout à fait. Le juif est assimilé au règne de l'argent, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voit dans les travaux d'Alphonse Toussnel, qui est un disciple de Charles Fourier. Autrefois, le juif était l'usurier du village. Maintenant, il devient le capitaliste.
Ouais.
Malgré les grandes écoles du socialisme français, on retrouve aussi cela chez Proudhon, dans ses carnets.
D'accord. Il y a d'antisémitisme qui progresse dans les mouvements socialistes, pré-marxistes,
toujours,
on va dire.
Proudhon dira que le juif est toujours frauduleux et parasite.
Voilà. Ouais, d'accord.
Ouais, on note quand même qu'avant 1880, la France n'est quand même est très peu antisémite.
Oui, malgré tout, oui, il n'est pas très fort cet antisémitisme français dans ces années-là. On n'est pas encore à l'affaire Dreyfus.
Tout à fait. C'est surtout en Europe centrale et orientale, comme l'a déjà dit,
que c'est très fort.
Plus antisémite.
Tout à fait.
Mais en France, ça va se développer quand même à la fin des années, au début des années 1880, à cause des pogroms qui touchent les Juifs en Russie.
Ouais.
Et du coup, les populations juives arrivent vers la France et donnent une nouvelle visibilité au peuple juif.
Donc c'est une forme d'immigration des Juifs askénazes qui va augmenter la population et qui va générer un regain d'antisémitisme en France.
Tout à fait. Et là, ça va être un antisémitisme plutôt de droite, monarchiste et catholique.
Ouais, tout à fait.
On va voir dans le journal La Croix, assez récemment, par exemple, des extraits antisémites.
Mm.
Et puis surtout, le grand précurseur, c'est Édouard Druman, avec sa France juive de 1886, qui est un véritable best-seller pour l'époque.
Oui, tout à fait.
Et lui, il développe l'idée, la théorie selon laquelle il y a une invasion du peuple juif, et il construit un mythe physique, social, moral du juif.
D'accord, donc là, on a vraiment un démarrage d'un mouvement juif d'un mouvement antisémite, pardon, plus fort en France à partir des années 1880.
Tout à fait, qui va avoir vraiment qui va culminer avec l'affaire Dreyfus.
Voilà, tout à fait, qui démarre dans les années 1895 à peu près.
En 1894, donc, il est condamné par le Conseil de guerre et l'affaire Dreyfus ne veut pas être lancée tout de suite parce que finalement, ça a un peu d'impact tout de suite. C'est surtout lorsque son frère Mathieu va chercher à faire innocenter son frère, que des intellectuels vont s'engager, comme Émile Zola, des politiques aussi, comme Clémenceau. Et là, les choses sont tendres.
Oui, ça va devenir une affaire nationale à partir de l'engagement des intellectuels, qui fait prendre conscience à une partie de la France qu'il y a un scandale absolu derrière. Et là, ça devient une affaire qui coupe la France en deux. Hein.
Exactement, parce qu'il y a d'autres intellectuels de l'autre côté qui pensent, qui sont sûrs que Dreyfus est coupable simplement parce qu'il est juif.
Oui, voilà. Et qu'il faut défendre l'honneur de l'armée.
Oui,
et du pays.
Oui.
Et donc, ça passe par une culpabilité obligatoire du juif.
Oui, voilà. Et on peut citer Maurice Barrès, par exemple, qui est son fameux que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus, à sa race.
Ok, très bien. Donc, on est dans ces années-là, un antisémitisme très fort en France.
Et en même temps qu'il y a cette affaire Dreyfus, il y a aussi un développement du sionisme qui va naître dans ces années-là, avec Théodore Herzl, qui assiste à la dégradation de Dreyfus dans la cour des Invalides. Et ce journaliste hongrois pense ainsi que si la patrie des droits de l'homme est capable de condamner un homme innocent,
injustement,
ça veut dire que l'assimilation ne fonctionne pas pour le peuple juif et qu'il faut donc un État pour les juifs.
Et voilà, Theodor Herzl vient de formuler ce qu'on va appeler le sionisme. Les juifs doivent trouver un lieu pour s'établir et devenir autonome, fonder un État.
Tout à fait.
Alors on va faire une petite pause, arriver à ce moment de notre présentation historique, et on va écouter Billy Bragg, et je vous en dirai un peu plus après. I'm gonna tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized to bound to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us, this one thing I know. The poll tax and Jim Crow and greed have got to go. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about to lose. People of every color marching side by side, marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about to lose. Take my union gun. Gonna end this world of slavery before this war is won. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists are bound to lose.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Radio Calade. Nous consacrons notre émission aujourd'hui à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, à la question de l'antisémitisme et de la Shoah. Nous venons d'écouter Billy Bragg qui reprenait une chanson de Woody Guthrie, le chanteur américain, qui s'appelle « All You Fascists ». Et en gros, c'est une chanson de combat antifasciste. Ce qui tombe bien puisqu'on ne va pas tarder à s'approcher de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va bientôt être dans le vif du sujet. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va, avant de parler rapidement de l'antisémitisme entre deux guerres, on va dire deux mots de l'antisémitisme racial, si tu le veux bien, Jean-François.
Oui.
Jean-François est notre invité, notre spécialiste de la Shoah, qui va nous parler de... très rapidement de la Shoah. L'antisémitisme racial, c'est évidemment la haine des Juifs en tant que groupe racial cette fois-ci, hein, donc plutôt que sur des fondements religieux. On l'a dit tout à l'heure, il y avait eu un premier aspect de cet antisémitisme racial à travers la loi espagnole, hein, la pureté du sang. Au XIXe siècle, il va y avoir une sorte de fièvre de classification des races, hein, qui est logique parce qu'au XVIIIe siècle, on a eu une fièvre de classification des espèces avec Cuvier, Linné, et c'est ce qui va suivre de façon logique. Un exemple parmi tant d'autres, le grand scientifique allemand Haeckel va faire un classement qui distinguera 36 races réparties en 12 espèces. Alors en gros, de façon pas surprenante du tout, dans les races supérieures, il nous dit c'est qui ? Bah, c'est les Blancs déjà. Et parmi les Blancs, les Anglo-Saxons et les Allemands, avec en tête de liste la race aryenne. À l'autre bout de l'échelle, on a la race des Noirs, quasiment assimilée à des animaux, et entre les deux, la race asiatique. Alors, à noter que bah, dans cette liste-là, les Sémites, les Juifs, sont tout en haut de la liste, d'accord ? Ils sont dans les races les plus prestigieuses. Si on veut citer quelques auteurs, on peut en citer deux auteurs qui ont marqué un peu ces questions-là. Bah, c'est deux Français. Hein. Il y a Arthur de Gobineau qui a fait un essai qui s'appelait « Essai sur l'inégalité des races » en 1855, où il voyait à la fois le monde moderne comme décadent, il voyait là aussi la supériorité de la race germanique. Mais par contre, il n'y avait pas un gramme d'antisémitisme dans son discours. Fin 19e, un autre Français, Vacher de la Pouge, qui va décrire une vision de la lutte des races. Ce n'est pas la lutte des classes, c'est la lutte des races. Et dans cette lutte des races, les races vainqueurs, c'est celles qui ont du sang aryen. D'accord ? Il attire beaucoup, il alerte beaucoup sur les dangers du métissage. Et la Pouge ne va pas être spécialement hyper célèbre, mais en Allemagne, il va être remarqué, suivi, et il va être considéré par les nazis comme un précurseur intellectuel. Et en fait, c'est uniquement à partir de l'arrivée des nazis qu'on a vraiment les juifs qui sont assimilés comme une race inférieure, abâtardis soi-disant par des mélanges avec les noirs, enfin n'importe quoi, et qui ils arrivent à inventer une rivalité entre les aryens et les juifs. Voilà ce qu'on peut dire sur l'antisémitisme racial. Qu'est-ce qui se passe entre deux guerres au niveau antisémitisme? On va parler des nazis, je présume,
oui, Jean-François. Oui, tout à fait. On va déjà rattaquer en disant que pendant la Première Guerre mondiale, les juifs émancipés se sont lancés à fond dans la Première Guerre mondiale pour défendre la nation dans laquelle ils étaient, peu importe cette nation. Et ils ont découvert une véritable fraternité avec leurs concitoyens dans les tranchées. Mmh. Cependant, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, on fait beaucoup de publicité autour d'infos, le protocole des sages de Sion, ouais. Qui tend à dire qu'il y a une conspiration juive internationale et que les juifs sont prêts à tout pour faire un complot mondial et prendre le pouvoir.
On en parlera encore dans l'émission prochaine de ce protocole. Ouais,
d'accord.
Tout à fait.
Même Henry Ford, par exemple, en 1920, fait la publicité de ce texte aux États-Unis.
Ouais.
Voilà. Et puis en plus, on vient d'avoir le succès de la révolution bolchevique en 1917.
Oui.
Et s'il y a eu le succès de la révolution bolchevique, c'est signe de cette conspiration internationale des juifs. Voilà. La Hongrie, à cause de cela, va revenir sur l'émancipation des juifs et surtout va restreindre cette émancipation en instaurant un numerus clausus dans les universités. Donc les juifs n'ont pas accès aussi facilement qu'auparavant à l'université en Hongrie.
Donc un retour à un durcissement.
Tout à fait. Et surtout, l'antisémitisme d'entre-deux-guerres est à mettre en lien avec le nazisme, comme tu disais tout à l'heure, Patrick, avec donc, la montée au pouvoir de 1919 à 1924, qui se solde par un échec avec la tentative de putsch de la Maison de la Bière le 9 novembre 1923. Hitler se retrouve en prison, mais il profite du procès pour médiatiser énormément son parti, qui est encore un petit parti. Il est condamné à 5 ans de prison, mais il sera relâché au bout d'une seule année. Il en profite pour écrire Mon combat, Mein Kampf
voilà.
En prison. Voilà. Mais en 1924, toujours, le parti nazi ne récolte que 3% des voix au Reichstag. C'est encore un petit parti. Il faut vraiment attendre la crise de 29, la crise économique de 29, le krach boursier de Wall Street, pour voir un succès nazi aux élections en 1930 avec 18,33% des voix. Puis en juillet 32, avec 37% des voix, où là, le parti nazi devient le premier parti d'Allemagne.
Et prend le pouvoir.
Et il va prendre le pouvoir lorsque le président Paul von Hindenburg va confier le poste de chancelier à Hitler le 30 janvier 1933. La République de Weimar va donc se transformer en un régime totalitaire.
Eh oui, c'est le début du dérapage et de la suite inévitable.
Tout à fait.
C'est-à-dire l'arrivée au pouvoir des nazis et la guerre qui se profile et le développement des doctrines raciales très violemment antisémites.
Tout à fait. Et du coup, tout cela va aboutir à la Shoah. Et étudier la Shoah, finalement, c'est essayer de comprendre comment on est passé de 9,5 millions de juifs en Europe en 1933 à seulement 3,5 millions en 1945.
Voilà, donc là, on démarre la deuxième partie de notre émission, la Shoah proprement dit. Hein, on a pu comprendre maintenant cette montée sur plusieurs siècles de l'antisémitisme et cette permanence. Examinons en détail ce que ça a donné. Donc, on t'écoute, Jean-François.
Donc, on va continuer sur l'antisémitisme, mais version nazie. Là, pour l'histoire, pour les nazis, en fait, l'histoire est une éternelle guerre des races, à laquelle ils proposent de mettre un terme par une victoire biologique totale. Dès 1933, dans les programmes d'histoire nazie, on enseigne que depuis des millénaires, l'homme germanique est assailli par des ennemis orientaux, divers emmenés par les juifs. Et finalement, c'est une guerre contre une race, contre une autre, et ben même pas finalement, parce que les juifs ne sont pas assimilés à une race, c'est une anti-race ou une non-race. Voilà. D'après eux, les juifs sont agressifs par nature, psychiquement malades, alors que l'homme du Nord, c'est le prométhée de l'humanité, selon Hitler, c'est le créateur de toute culture.
Ouais, on va très loin au-delà de tout ce qu'on a entendu précédemment quand même.
Oui, oui, ça va beaucoup plus loin, ça pousse très loin, même sur des fantasmagories. Hein.
Par exemple,
Hitler prend de nombreux exemples. Les Grecs seraient une tribu nordique immigrée en Méditerranée, qui ont été victimes de la haine des Perses. Les Perses seraient des Sémites, qui, heureusement, les Grecs ont vaincu à Marathon et à Salamine et ont protégé l'Europe. Ensuite, c'est la même chose avec Rome, qui, autre création des hommes du Nord d'après Hitler, qui, lui, eux, ont été agressés par les Sémites de Carthage. Et on vaincu aussi.
Donc en fait, il y a une réécriture complète de l'histoire sur un mode complètement fantasmatique. On a l'impression qu'il fume la moquette en permanence quand il dit tout ça.
Oui,
mais ça devient une vérité officielle.
Oui. Ensuite, il y a l'invention du christianisme qui est fait pour détruire Rome. C'est les juifs qui auraient inventé le christianisme pour détruire Rome. C'est donc un complot judéo-chrétien. Et donc, avec le christianisme, à un empire inégalitaire, on oppose une fausse doctrine, celle de l'universalité et de l'égalité de tous les enfants de Dieu. Le résultat fut la chute de Rome, au final. Tout ça se poursuit avec l'humanisme, puis la Révolution française, qui ont poursuivi ces chimères égalitaristes et universalistes, avec les droits de l'homme. Et le dernier avatar de tout cela, c'est le bolchevisme.
Voilà. D'accord. Donc il y a aussi la liste de tous les ennemis jurés du nazisme. Hein, la Révolution, le bolchevisme, les Lumières avant, etc.
Exactement. Et donc avec les nazis, l'antisémitisme devient la politique officielle d'un régime moderne. Dès lors, dans la mesure où le judaïsme, finalement, il est défini comme une particularité biologique, le juif n'a plus la possibilité de contrer les persécutions, il ne peut plus s'assimiler, finalement.
Voilà, tout à fait, puisqu'ils sont biologiquement différents d'après la doctrine nazie.
Voilà. Donc tout cela ouvre la porte à la solution finale.
Donc on est à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, hein.
Oui,
on s'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on ne va pas faire le déroulé précis de la stratégie guerrière de Hitler qui l'amène au déclenchement de la guerre, hein, les reculs successifs, Munich, etc., etc. Mais la guerre se déclenche et à travers la guerre, pendant la guerre, il y a vraiment ce projet de la Shoah qui se formule petit à petit.
Oui, parce que pendant la guerre, finalement, les nazis vont faire deux guerres, pas une seule. Ils vont faire une guerre militaire et une guerre raciale.
Mm-hmm.
Et la guerre raciale va leur prendre de l'énergie, des ressources logistiques qui vont finalement contribuer en tout cas à la chute.
Quelque part, ils n'ont pas prévu ça. C'est que cette dépense d'énergie pour cette solution finale, c'est autant de ressources qui sont mobilisées et qui auraient été bien nécessaires face au front de l'Est et au front de l'Ouest.
Oui, donc là, on rentre vraiment dans une logique d'extermination.
Ouais.
Et donc, cette solution finale se présente comme un processus de phase interconnectée. La première phase correspond aux lois de Nuremberg du 15 septembre 1935 et à la définition de qui est allemand, qui ne l'est pas.
D'accord. 35, on dit qui est allemand, qui ne l'est pas.
Oui.
Ça fait une base.
Ça fait déjà une base. Donc ces lois raciales font des juifs des citoyens de deuxième classe et leur interdisent les mariages et les relations sexuelles avec les Allemands. Voilà. Ensuite, il y a une phase d'émigration forcée par le boycott des magasins juifs, les autos d'affaires, le port des poils jaunes, les violences physiques et morales. Et donc les nazis cherchent à pousser à bout les juifs et cherchent à les faire quitter l'Allemagne en expropriant, les interdisant de travailler dans certaines professions, en aryanisant les biens des juifs et les entreprises.
Ça, c'est les années 35-40, on pourrait dire.
Exactement. Et ça va s'achever avec la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, qui est un énorme pogrom finalement qui va entraîner 30 000 arrestations et déportations dans des camps de concentration. Et, les Allemands vont mettre à feu et à sang le peuple juif à ce moment-là.
La nuit de cristal, c'est vraiment dans plusieurs villes d'Allemagne. Hein, ce n'est pas seulement dans la capitale. Hein, c'est vraiment un processus qui a été préparé soigneusement.
Tout à fait. Et on est dans un contexte européen de crise. Du coup, la plupart des pays ferment leurs portes aux juifs qui pourtant tentent de quitter l'Allemagne à ce moment-là. Les plus aisés arrivent à quitter l'Allemagne, mais les autres ne peuvent pas. Du coup, il y a quand même le président des États-Unis, Roosevelt, qui est inquiet de tout ce problème. Et en juillet 38, il décide de réunir une conférence à Évian afin de chercher une solution pour les populations juives.
D'accord. On n'est pas tellement au courant historiquement de tout ça. Hein.
Pourtant, 32 pays étaient présents.
Ouais.
Ils affirment leur compassion envers le peuple juif, mais ils refusent de les recevoir.
Ça nous donne des échos quand même récents. Hein, d'accord. Oui, c'est bien triste tout ça, mais bon, merci, gardez-les vos juifs, on n'en veut pas.
L'Australie ira même jusqu'à dire qu'elle ne veut pas importer de problèmes raciaux sur son territoire.
Voilà.
Et la Suisse demandera à l'Allemagne de faire apposer la lettre J sur les ressortissants juifs.
C'est gentil, la Suisse.
Voilà. En fait, il y a un seul État finalement
accepter de les recevoir.
Pour accepter de les recevoir, qui est la République dominicaine.
Ouais,
c'est un faux précepte, puisque le directeur Trujillo souhaite blanchir sa population.
Ouais, voilà. En plus, ce n'est pas des bonnes motivations.
Voilà. Et Hitler ne va pas se manquer de rigoler là-dessus et de dire c'était honteux de voir les démocraties dégouliner de pitié pour le peuple juif et rester de marbre quand il s'agit vraiment d'aider les juifs.
Et là, malheureusement, on se dit qu'on n'est pas complètement en désaccord avec ce qu'il vient de dire.
Oui, malheureusement. La troisième phase, ça correspond aux ghettos et aux camps de concentration. Et avec les camps de concentration, il y a aussi les camps de transit et les déportations.
Ouais.
Alors, le terme de camp de concentration n'a pas été inventé par les nazis. Il a été utilisé dès le début du XXe siècle par les Britanniques lors de la guerre des Boers Afrique du Sud, qu'ils opposaient aux descendants des colons néerlandais. Dans l'Allemagne hitlérienne, la fonction des camps de concentration était une fonction d'exclusion et de terreur. Ces camps étaient destinés à recevoir déjà les adversaires nazis, mais aussi tout individu considéré comme dangereux pour le régime nazi.
D'accord.
Les uns et les autres étaient arrêtés et amenés dans ces camps pour y être astreints au travail forcé.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils faisaient à peu près 12 heures de travail par jour, des appels interminables dès l'aube et tard dans la nuit par tous les temps, des sévices qui étaient infligés par les capots qui surveillaient donc les baraquements, une sous-alimentation, des maladies mal soignées. Les déportés les plus faibles ne restaient pas longtemps à ce régime.
Du coup, bien sûr.
Parfois, ces camps de concentration, on a pu les appeler des camps de la mort lente.
Oui, parce qu'il y avait des taux de mortalité absolument terribles.
Exactement, et en plus, ils fournissaient un réservoir de main-d'œuvre constamment renouvelé. À la machine nazie. Et gratuite, exactement. En Allemagne, donc, les camps de concentration vont se reprendre à partir de mars 1933. Le premier est ouvert à Dachau, près de Munich. Et avec la Seconde Guerre mondiale, les nazis vont ouvrir d'autres camps partout où ils arrivent à se répandre. Voilà. Le commencement de la Seconde Guerre mondiale va marquer un tournant dans la politique nazie contre les juifs à partir du 1er septembre 1939 et l'invasion de la Pologne.
Ouais.
Alors la Pologne va être assez rapidement conquise, en 3 semaines à peu près. La répression va être extrêmement sévère contre les intellectuels et les élites dirigeantes. Heinrich va dire que les juifs doivent être enfermés dans des ghettos.
Ah.
Dans ces ghettos, il doit avoir des conseils de juifs, les Judenrat, qui doivent, où les Allemands leur passent les ordres et les Judenrat passent ses ordres au peuple juif, enfermé. Et durant la présence allemande et durant la guerre, les populations sont humiliées, frappées. On peut raser les barbes des orthodoxes pour les humilier également. On fait des pendaisons publiques pour terroriser la population. On extorque des sommes d'argent faramineuses. On impose le travail obligatoire. On remet l'ancienne coutume médiévale du port d'un signe distinctif. Alors d'abord un brassard avec une étoile de David, puis l'étoile jaune.
Ouais, la fameuse étoile jaune qui apparaît à ce moment-là.
Et les populations juives sont reclues dans des ghettos fermés au fur et à mesure, sans électricité, dans des conditions d'hygiène déplorables.
Et puis avec de plus en plus de personnes dans un lieu géographiquement extrêmement restreint.
Exactement.
Une surpopulation terrible.
Exactement. Le plus grand ghetto de Pologne, c'était celui de Varsovie, où il y avait à peu près 500 000 habitants. Pour 2,4% de la superficie de la ville de Varsovie seulement.
Ouais,
et donc dans ces conditions, sans eau, sans électricité, les épidémies, la famine diminuent très rapidement le nombre d'habitants.
On va faire une deuxième pause musicale si tu le veux bien. Nous allons écouter le chant des partisans de Vilna.
Unser Glut,
Poker Menteur. Calade. Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à antisémitisme et Shoah, à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Nous sommes en compagnie de notre invité Jean-François, spécialiste de la Shoah. Et ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est un chant des partisans de Vilna. C'était des résistants du ghetto de Vilnius, en Lituanie. D'accord ? Donc on est vraiment dans la thématique, puisque tu nous parlais du ghetto de Varsovie. Donc on t'écoute, vas-y, continue Jean-François.
Merci. Il y a pas mal de films hollywoodiens qui reviennent un petit peu sur ces ghettos. Hein. On peut voir Le pianiste de Polanski, par exemple,
tout à fait.
Pour le ghetto de Varsovie.
Varsovie, ouais.
Et L'Aïe de Schindler de Spielberg sur le ghetto de Cracovie, et qui permettent peut-être aux visiteurs d'en apprendre
de se faire une idée plus précise, plus concrète à travers des œuvres cinématographiques, tout à fait.
Alors, malgré leurs conditions de vie déplorables, les Juifs tentaient quand même de résister comme ils le pouvaient. Alors, de résister pas forcément par les armes, mais au moins en cherchant un petit peu un espace de liberté.
Et de dignité, je dirais.
Et de dignité, exactement.
Ouais.
Ils faisaient déjà entrer clandestinement de la nourriture. Ils essayaient de se réunir clandestinement aussi, en essayant de continuer leur parti politique ou leur mouvement de jeunesse. Les activités religieuses se maintenaient également. Ce qui était compliqué aussi, c'était d'essayer d'offrir une éducation aux enfants. Et puis surtout, ils essayaient de compiler des preuves de ce qu'ils subissaient.
C'est important.
Ils
pensaient à l'après.
À l'après, tout à fait.
Ouais.
Et là, on a le réseau Onak Shabbat, par exemple, de l'historien Emmanuel Ringelblum, qui nous apporte encore aujourd'hui des preuves de ce qui s'est passé durant ces terribles moments.
Documenté pour l'après, pour les descendants.
Tout à fait.
Et maintenir des éléments qui font société, d'accord ? L'éducation, les fêtes, etc.
La vie culturelle aussi, avec des concerts, des pièces de théâtre, parce qu'on avait des comédiens, on avait des musiciens dans ces ghettos qui étaient enfermés, et du coup, ils voulaient maintenir une vie culturelle.
Tout ça dans un contexte, parce qu'on est à la radio, donc on visualise pas trop, mais qui est presque l'enfer, quoi. C'est l'enfer, la vie dans les ghettos.
Ouais, ouais.
Donc maintenir une vie dans l'enfer, en fait.
Très peu de nourriture, donc on a des populations qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Il y a 80 000 juifs, par exemple, qui moururent dans le ghetto de Varsovie, rien que dans le ghetto, et puis on sait qu'après, ils vont être déportés dans des centres de mise à mort. On en reparlera ensuite.
Tout à fait.
Il y avait un ghetto qui était mis comme un modèle par les nazis, c'était celui de Terezín en Tchécoslovaquie.
Ouais.
C'était, d'après les nazis, l'implantation juive modèle. Malgré tout, c'était comme les autres ghettos, c'était qu'un camp de transit avant l'extermination.
D'accord.
En juin 1944, quand même, les nazis se servirent de la visite de la Croix-Rouge dans ce ghetto pour donner l'impression d'une communauté vibrante et dynamique.
Oui, 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 c'est donc la propagande nazie, quoi.
Tout à fait. Mais quand même, sur les 150 000 juifs qui vivaient à Terezín, 35 440 moururent dans le ghetto. Et les autres, la grosse majorité des autres moururent dans les centres de mise à mort.
Bien sûr.
Alors, pendant ce temps-là, en Europe de l'Est, après la période de la drôle de guerre, la conquête allemande fut extrêmement rapide, hein, puisqu'on n'a que le Royaume-Uni, finalement, qui
résiste.
Ouais, ouais, tout à fait.
Tout à fait.
Alors, l'antisémitisme n'a pas la même virulence qu'à l'Est, on l'a déjà vu.
Oui.
Et du coup, la politique nazie s'adapte. Donc, aux Pays-Bas, les Juifs sont exclus de la fonction publique en septembre 40.
Ouais.
Et en France, il y a le fameux statut des Juifs qui est promulgué le 4 octobre, qui prive les Juifs de leurs droits et qui confisque leurs biens. Et puis, les sociétés des Juifs sont arianisées également.
Ouais, mais comme tu le dis, en Europe de l'Ouest, ils n'arrivent pas, enfin, ils choisissent de ne pas essayer, je parle des nazis, de ne mettre en œuvre des lois aussi dures que celles qu'ils mettent en œuvre en Europe de l'Est, parce que les différences de contexte culturelles sont là, c'est-à-dire que l'antisémitisme est infiniment moins fort en Europe de l'Ouest et ça passerait pas, quoi, en quelque sorte.
Ouais,
et par répercussion, ça nous dit la violence de l'antisémitisme à l'Est.
Oui, exactement. Ouais. Ensuite, on va rentrer dans une dernière phase qui est la phase de l'extermination,
ouais,
qui commence par ce qu'on appelle la Shoah par balle.
Ouais.
Alors, avec le commencement de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, la solution finale de la question juive, vraiment, comment ça
démarre vraiment.
Alors, l'opération Barbarossa, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Hitler décide de rompre le pacte germano-soviétique et d'attaquer l'URSS,
ouais,
contrairement
d'accord
à ce qu'il avait promis à Staline. Pour Hitler, il pense réussir à s'emparer de l'URSS dès l'hiver 1941.
Il a jamais... C'est pas intéressé à l'histoire, à Napoléon, Hitler?
Il aurait peut-être dû. Hein. Ça, ouais. Effectivement, ouais. Cette invasion de l'URSS devrait permettre à l'Allemagne de se doter de son espace vital, le fameux Lebensraum.
Ouais, bien sûr.
Et de détruire le communisme, autre grand ennemi d'Hitler, hein, qui regroupait souvent d'ailleurs avec la communauté juive, puisqu'il parlait de judéo-bolchevisme qu'il fallait...
Ouais, détruire. Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Alors, pour cela, comment il faisait? La Wehrmacht avançait sur le front, et derrière elle, suivaient les Einsatzgruppen, c'est-à-dire des groupes d'intervention. Et ces Einsatzgruppen qui étaient composés surtout de bataillons SS, de police aussi, et d'auxiliaires volontaires recrutés parmi les populations locales, nettoyaient finalement les territoires des populations hostiles. Alors les populations hostiles, c'était quoi? C'était les communistes, les partisans, c'est-à-dire les résistants, les tziganes et les juifs.
Alors ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'armée qui arrive, qui fait son boulot, donc elle bat ses opposants et elle avance, elle gagne du terrain.
Tout à fait.
Et derrière, juste derrière, il y a les SS, il y a ces groupements spéciaux, et eux, en fait, ils sont là pour tuer tout le monde, quoi.
Exactement.
Enfin, dès que vous êtes juif ou résistant. Et il y a un roman qui avait fait date, hein, il a eu le prix Goncourt il y a une quinzaine d'années, de Jonathan Little, qui s'appelait Les Bienveillantes, et qui raconte ça, et c'est quasiment insoutenable, hein,
c'est
ce qu'il raconte.
De pouvoir
c'est incroyable, c'est d'une horreur terrible.
J'ai pris un petit exemple quand même pour illustrer tout cela, c'est le massacre de Babi Yar, où les Allemands placardent des affiches pour ordonner aux Juifs de se présenter le 29 septembre 1940 afin d'être déplacés, c'est-à-dire de changer d'endroit. Donc au matin, un commando spécial du groupe d'intervention conduisit les Juifs en direction du cimetière juif. Et alors, il massacre les 33 771 Juifs, ainsi que le Tzigan et les prisonniers de guerre, d'une balle dans la tête. Donc c'est ça.
Parce que massacrer 33 000, après c'est des chiffres, on a du mal à visualiser. Mais c'est quelque chose, 33 000 personnes, c'est un volume gigantesque. Et rien que pour faire ça, c'est presque irréel d'arriver à faire ça. Et de garder une santé mentale. Hein.
Et c'est extrêmement dur pour les populations, pour les populations locales déjà, et
bien sûr,
et également pour les nazis qui certains vont pas réussir à faire cette mission.
Bah, clairement, c'est un truc à devenir fou. Même pour ceux qui sont du côté de la gâchette.
Hein. Oui. Et justement, on peut s'intéresser de qui est derrière cette gâchette, qui sont les bureaux de la Shoah, par balle. Alors la plupart des meurtriers déjà, ce sont des SS, donc des nazis plutôt convaincus, qui ont trouvé un échappatoire dans le nazisme et qui leur permet de gravir les échelons.
Oui, bien sûr.
Ce sont quand même des gens très éduqués, puisque la plupart d'entre eux sont allés à l'université. Certains sont même docteurs en économie, en droit, etc. Et du coup, ils encadrent ces Einsatzgruppen. À côté de ça, on a aussi donc des régiments de police allemands qui, eux, sont peuplés de populations trop âgées pour faire la guerre.
Pour faire la guerre, voilà.
Donc, faire partie
de la Wehrmacht. Sont dans la police.
Donc, ils sont dans la police. Et malgré tout, malgré le fait d'être nés à une période avant le nazisme et de connaître d'autres normes sociales, ils participent très activement à la Shoah par balle.
Ouais.
Pourquoi ils participent si activement à la Shoah par balle? Tout simplement par obligation de suivre les normes de l'époque.
Ah, ils n'ont pas le choix, quoi, en gros.
Ils n'ont pas
le choix. Ils doivent suivre les ordres, sinon ça peut...
ça peut dégénérer.
Puis, mal pour eux.
Il y a aussi un conformisme de groupe qui va.
Et
avec,
bien sûr.
Ils ont crainte de perdre la face devant le groupe. Donc ça, c'est pas possible. Il y a aussi une solidarité devant le sale boulot effectué. Bien plus que sur le fond idéologique, finalement, parce que ce sont pas des nazis
convaincus.
Ah oui,
je pense pas que dans la population des policiers, le fond idéologique soit très dominant. Peut-être dans la population SS, mais pas des policiers.
Non,
mais il y a cet effet de groupe, quoi. Il faut être solidaire avec le groupe, faut pas abandonner, faut pas faire de la face. Puis on craint pour son emploi, voire pour sa vie, si on s'amuse à dire non,
exactement,
etc.
Et comme on disait quand même tout à l'heure, c'est quand même très compliqué pour ces bourreaux d'appuyer sur la gâchette tous les jours.
Ouais, voilà.
Et de voir sa victime. Et du coup, les inspecteurs envoyés par Berlin se rendent bien compte sur le terrain que l'état des troupes est assez déplorable.
Bah, bien sûr.
Il y a un manque de discipline, il y a une consommation très excessive d'alcool et il y a une démoralisation qui peut conduire au suicide parfois même.
Tout à fait. Donc ils prennent conscience de ça.
Ils prennent conscience de ça et du coup, ils vont mettre en place un nouveau moyen d'action. C'est ce qu'on appelle les centres de mise à mort qui vont être mis en place. Et avant l'extermination, il y a donc les déportations.
D'accord.
Donc après la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, les nazis entament la déportation des juifs d'Europe centrale et occidentale vers les camps de concentration et les centres de mise à mort.
D'accord.
Alors, le responsable de tout cela, c'est Adolf Eichmann, qui est dirigeant des départements SS des affaires juives, et il organise donc toutes ces déportations. Alors, dans les pays occupés, c'est la police locale, comme la police hollandaise, la police française, par exemple, qui se chargeait des rafles, comme la fameuse rafle du Veldiv en France, le 16 juillet 1942, et de la déportation. Ensuite, il y a des transports vers des camps de transit, comme Westerbork aux Pays-Bas, ou Drancy, en France.
Le fameux camp de Drancy, voilà.
Tout à fait. Et les déportations faisaient vraiment partie intégrante de cette organisation où les autorités civiles et militaires coopéraient.
Oui, bien sûr, c'est la première phase, première étape de la solution finale, quoi.
Tout à fait. L'administration des chemins de fer, par exemple, du Reich, a mis ses wagons en route
à disposition.
Et son réseau en route pour les bourreaux. Dans les ghettos, l'ordre d'exécuter une action parvenait au Widenrat. Le Widenrat le communiquait aux juifs de la population. Et la police locale intervenait avec le service de sécurité juif. Donc il demande à tout le monde d'être prêt, d'être amené vers la gare et d'apporter seulement quelques effets personnels.
Ouais.
Ceux qui manquaient à l'appel ou ceux qui marchaient pas assez vite étaient abattus très rapidement. Donc ensuite les gens étaient entassés dans des wagons à bestiaux. Le voyage durait plusieurs jours et causait de nombreuses victimes qui mouraient de faim et de soif.
Oui, déjà rien que les conditions de transfert, enfin on le sait parce qu'il y a de multiples témoignages et puis au cinéma aussi ça a été beaucoup visualisé, enfin beaucoup retracé ces phases de déplacement. Il y avait une mortalité absolument terrible.
Tout à fait. Et souvent, quand on fait ce genre de choses avec les élèves sont marqués par le manque de résistance des populations juives.
Ouais.
Alors, on peut expliquer ce manque de résistance par le cumul des étapes visant à déshumaniser les populations.
Ouais.
Hein, ils n'ont plus de droits déjà, ils sont ghettoisés, ils sont affamés, épuisés. La majorité des juifs n'avaient plus la capacité de se réunir et de s'organiser.
Ouais.
Et finalement, ils étaient concernés que par le besoin les plus immédiats.
C'est un processus de déshumanisation, quelque part d'un peu de lavage de cerveau, quelque part. Avec le temps, au fil des mois, et quand on est dans un état d'affaiblissement physique et moral aussi fort, bah oui, de fait, les capacités de résistance deviennent très faibles.
Il y a quand même un soulèvement notable, c'est celui des ghettos de Varsovie en avril 1943, qui met en péril un petit peu l'action nazie.
D'accord.
Mais qui n'a pas pu durer par faute de moyens.
Bah oui, par manque de moyens, bien sûr.
Tout à fait. Donc les déportations conduisaient les victimes dans des centres de mise à mort. Alors les centres de mise à mort ont été construits pour liquider physiquement les juifs et les tziganes. Il existait 4 centres de mise à mort, le premier créé en 1941 à Chelno, les autres créés en 1942 à Belzec, Sobibor et Treblinka, qui furent démantelés dès 1943. Pourquoi démantelés dès 1943? Parce que finalement, leur funeste mission était déjà achevée.
Ah d'accord.
Ouais. Il y avait deux autres camps, celui d'Auschwitz et de Majdanek, qui étaient à la fois des camps de concentration et des centres d'extermination.
D'accord.
Les deux.
Okay.
Alors, l'Allemagne nationale socialiste expérimenta la mise à mort par gaz toxique dès octobre 1939, lors de l'opération T4 pour mettre un terme à la vie de plusieurs centaines d'handicapés dans la politique eugéniste.
Oui, oui, tout
nazie.
À fait.
Ainsi, entre octobre 1939 et août 1941, plus de 70 000 handicapés allemands furent gazés.
Ouais.
Alors, cette méthode fit vite ses preuves, parce que le gaz tuait vite. C'était un procédé bien plus rapide et meilleur marché que l'exécution des balles.
Ouais, bien
et
sûr.
En plus, tout cela permettait d'effacer les scrupules des bourreaux, justement, dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, avec la choix par balle, il savait qui il tuait et comment il tuait. Là, c'était voilà, très indirect.
Oui, c'est totalement anonyme. Ils sont enfermés dans une salle et puis après, on se débrouille avec les cadavres, mais on va voir qu'en fait, ce sont les Juifs qui vont devoir gérer ça.
Très bien. La première méthode employée, c'était à Chemnau et Auschwitz, c'était des moteurs de camions.
Ouais.
Ensuite, à Auschwitz, ils ont eu l'idée d'utiliser du Zyklon B, un pesticide.
Ouais.
Et le pesticide Zyklon B tuait en 6 à 25 minutes à peu près selon la saison, selon la température extérieure en fait.
D'accord.
Et les déportations massives donc, des ghettos vers les centres de mise à mort commencèrent dès décembre 1941 et atteignirent leur apogée au cours de l'été et l'automne 1942.
Mmh.
Alors les fonctionnements des centres d'extermination relevaient d'une organisation vraiment rigoureuse et scientifique.
Ouais, ouais.
Ils étaient construits le long des voies principales de chemin de fer pour emmener directement les déportés dans les chambres à gaz.
Mmh.
Les chambres en gaz étaient en permanence en action. Il y avait une exploitation commerciale et industrielle des cadavres, parce qu'après avoir confisqué les vêtements, les chaussures, les effets personnels des déportés, dès leur arrivée dans le camp, les nazis récupéraient, après les avoir exterminés, les dents en or, les lunettes, les dentiers, tandis que les cheveux étaient tissés pour fabriquer des couvertures et les os broyés et transformés en engrais.
Là, on est dans une terrible application des principes de la rationalité industrielle, avec l'idée qu'en fait, on a transformé des hommes en marchandises.
Oui, tout à fait.
Et donc, on en tire des usages multiples, comme tu viens de le décrire.
Et à Belzec, Sobibor et Treblinka, 1 700 000 juifs moururent ainsi, notamment lors de l'opération Reinhardt qui eut pour but d'exterminer les juifs de Pologne.
Ouais.
Alors après, on va faire une place particulière pour Auschwitz-Birkenau, qui est le plus grand camp de concentration et centre de mise à mort qui se situe à peu près à 1h30 de Cracovie.
Mmh.
Alors Auschwitz I, c'est le camp principal, c'était une ancienne caserne militaire polonaise qui a été aménagé à partir de avril 40 en camp de concentration. C'était au départ pour enfermer les prisonniers politiques, les criminels récidivistes, des Polonais. Et au fur et à mesure, les ingénieurs SS avaient d'abord construit une petite chambre à gaz improvisée dans un sous-sol de bâtiment pénitentiaire, dans le bloc 11.
D'accord.
Pour expérimenter finalement le Zyklon B, comment il allait pouvoir tuer. Ensuite, ils construisirent une permanente en formant une partie du crématoire original qui fut érigé en dehors de la prison. Alors, Auschwitz 1, il y avait également des expériences médicales qui avaient cours.
Oui, qui étaient menées.
Menées par le célèbre et tristement célèbre docteur Mengele.
Voilà.
Il y avait également un mur d'exécution. Il y avait également un autre camp à côté, Auschwitz 3 Monowitz. Ce camp d'Auschwitz 3 Monowitz, c'était en fait un camp de travail fait pour l'usine de caoutchouc IG Farben. Ensuite, il y a Auschwitz II, qui est Auschwitz-Birkenau, finalement, qui ouvre dès octobre 1941. Alors, lui, il était le plus grand. Il était vraiment immense comme camp. Il était gardé en permanence par des SS. Les fils barbelés électrifiés encadraient le camp. Il y avait 4 grands crématoriums dans le camp, qui se divisaient en 3 parties. Une zone de déshabillage, une vaste chambre à gaz et des fours crématoires.
Ouais.
Et il fut en activité jusqu'en novembre 1944.
C'est vraiment l'aspect le plus industriel. Auschwitz concentre cette logique industrielle ce processus d'extermination.
Ouais. Alors, les convois qui arrivaient par train descendaient sur la Judenrampe, où là, il y avait un processus de sélection. Ceux qui pouvaient aller travailler étaient sélectionnés pour le travail, et les autres allaient directement à la mort, donc dans la chambre à gaz.
C'était une logique 80-20 de mémoire, donc 20% qui étaient conservés pour le travail et 80% exterminés.
Tout à fait. On a poussé le vice jusqu'à mettre des fausses douches en fait, dans les chambres à gaz pour faire croire aux populations qu'elles allaient prendre leur douche. Donc à partir de 1942, les déportés raciaux en majorité juifs venant de toute l'Europe occupée furent exterminés dans ces chambres à gaz. Voilà. Et on peut relever aussi le rôle des Sonderkommando dans ces chambres à gaz qui eux s'occupaient vraiment de l'extermination. Et donc c'était eux-mêmes des juifs.
Ouais, tout à fait.
Ils avaient un destin assez court parce qu'ensuite, pour qu'ils ne puissent pas témoigner,
ils y passaient rapidement. Il y a un film qui s'appelle Le Fils de Saul, qui est sorti en 2016, dont j'ai oublié le réalisateur, qui doit être hongrois, qui est vraiment un film très très marquant que je recommande à tout le monde de regarder et qui parle exactement d'un membre des Sonderkommando.
Oui, et on a également un livre de Shlomo Venezia qui a été un Sonderkommando et qui raconte ce qui se passait à l'intérieur. Donc, à la fin, pour qu'aucune trace ne reste, les nazis ont détruit ces installations en janvier 45. Et ensuite, quand ils ont libéré les camps, c'était la fameuse étape des centres, des marches forcées qui, elles aussi,
furent, qui ont également tué un nombre insensé de personnes, parce que c'était dans des conditions tellement terribles, avec un état de faiblesse terrible, que oui, il y a eu une mortalité énorme, gigantesque.
Également. Oui, tout à fait.
On en arrive à peu près à la fin de ce processus de la Shoah, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, donc on en est à 6 millions de morts, malheureusement, durant cette Shoah, qui décima une très grande partie de la population juive d'Europe.
D'accord, ok. Donc, voilà un petit peu pour cette première émission, où on a tenu à faire à la fois un rappel historique de ce qu'était l'antisémitisme et sa montée en puissance, et avec son point d'orgue qui est donc le pouvoir des nazis et la Shoah. Mais il reste un peu l'autre partie de notre réflexion commune, nos discussions communes, qui portaient sur l'après-Deuxième Guerre mondiale et sur la façon dont est apparue une contestation de l'existence de la Shoah, donc à travers ce qu'on appelle le négationnisme. Donc l'émission du mois prochain sera consacrée encore en ta présence, et j'en suis ravi et je t'en remercie.
Merci.
Jean-François, merci de tout ce que tu nous as apporté. Sera consacrée à Shoah et négationnisme. Auditeurs de Radio Calade, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que vous gardez le moral et je vous dis à très bientôt.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Calade. 100.9.